Jéhovah, le péché de l'identité, un podcast de Joris Chamberger.
Je suis Jéhovah. C'est là mon nom, je ne donne ma gloire à personne, ni ma louange au statut. Isaïe, chapitre 42, verset 8.
Je m'appelle Guillaume, j'ai 47 ans. De ma naissance jusqu'à mes 35 ans, j'ai été témoin de Jéhovah. Ça commence même déjà dans le ventre de la maman, parce que il se base sur des études de psychologue qui indiquent que le nourrisson est déjà sensible à ce que les parents disent au ventre de la mère. Et donc déjà les témoins de Jéhovah vont lire des histoires bibliques au fœtus. Dès la naissance, on va pareil lui lire un maximum de publications jéhovistes. On va apprendre à lire et à écrire à l'enfant sur la base de publications. Alors, pour le coup, il y a quand même de bonnes choses, c'est que la plupart des témoins de Jéhovah arrivant à l'école savent déjà lire et écrire. Hein. Donc on est assez précoce, ce qui fait qu'on est généralement bon élève, etc. Donc il y a quand même quelques avantages. Mais on voit déjà qu'il y a une sorte de conditionnement, puisque tout est fait sur la base de publications éditées par l'organisation. On t'inculque que tu fais partie d'un peuple élu, hein, et puisque seuls les témoins de Jéhovah seront sauvés à la fin du monde, bien sûr, et que le reste du monde, c'est un monde dirigé par le diable. Hein, donc tout est ténèbres, tout est satanique. Ce qui veut dire que, bien sûr, on est scolarisé dans des écoles normales, mais par contre, on ne fréquente pas ses camarades de classe hein, en dehors de l'école, pas le droit d'amener son copain à la maison ou d'aller chez lui. Il n'y a aucune fête, puisque toutes les fêtes sont considérées comme païennes, donc pas d'anniversaire, pas de fête de Noël, pas Pâques, etc. Donc ça nous marginalise tout de suite. Moi, je ne l'ai pas vécu initialement comme... en tout cas, en étant enfant, comme étant douloureux, parce que on me faisait croire que... finalement, si j'étais marginalisé, c'est parce que je faisais partie d'une catégorie supérieure. Et donc, ça me faisait plaisir d'être différent des autres et d'être d'en savoir plus que les autres sur la vie, sur ce qui allait se passer après, etc. Donc, je me sentais pas frustré en soi, mais clairement, on est marginalisé. On n'a pas de copains à l'école. Hein.
On se rend compte, je crois qu'on a 16 ans. 16, 17 ans, quelque chose comme ça.
Et tu racontes ou je raconte?
Allez, vas-y, raconte. Raconte ta version.
Oui, je crois qu'on a la même version. Hein, mais je sortais d'une déception amicale, amoureuse, on va dire. Et donc, j'étais vraiment dans ma bulle, quoi. J'étais pas quelqu'un de très sociable, quoi. Voilà.
Je confirme.
Et donc, Sabrina vient, se présente. Voilà, je suis la cousine d'un tel, tu fais l'étude, etc. Et moi, en fait, au lieu de lui... Elle me tend la main, au lieu de lui serrer la main, je la regarde de haut en bas, je la snob.
Et il met ses mains dans les poches.
Et je lui tends pas la main, quoi.
Moi, je suis naturelle et très, très extravertie. Et là, je me dis dans ma tête, mais c'est qui ce sale con? Mais pour qui il se prend? Et je me suis fait un défi de le décoincer.
Que les anciens qui guident l'assemblée d'une belle façon soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent dur dans la parole et dans l'enseignement. Timothée, chapitre 5, verset 17.
Les témoins de Jéhovah sont assez misogynes. Les femmes n'ont pas de rôle, ou très peu en tout cas. La seule chose qu'elles ont le droit de faire, c'est prêcher. Mais elles n'ont aucun droit d'enseignement dans les assemblées, hein, dans les lieux de culte. Donc oui, donc il n'y a que les hommes qui peuvent évoluer hein, dans l'organigramme des témoins de Jéhovah. Alors là aussi, ils disent qu'officiellement, il n'y a pas de hiérarchie, c'est totalement faux. Hein. Il y a évidemment une hiérarchie. Et donc ça va du simple proclamateur, donc le témoin de Jéhovah de base qui fait que prêcher. Et puis après, il y a les anciens qui, eux, ont vraiment le but d'enseigner, donc c'est eux qui font les discours bibliques, qui ont le but aussi de toute l'activité pastorale, donc c'est visiter les familles, officiellement pour veiller sur eux, officiellement pour les surveiller, puisque voilà, il y a toujours un climat de surveillance, pour voir s'ils ne font pas d'écart, s'ils respectent bien les dogmes, s'ils n'ont pas une conduite répréhensible. Et si évidemment il y a une conduite répréhensible, ben, ils sont aussi juges puisqu'ils vont organiser un comité de discipline religieuse, qui est en fait un tribunal religieux, qui va juger donc les pécheurs pour décider si oui ou non ils sont à même de rester dans l'organisation ou s'ils sont excommuniés, hein, virés donc de, du groupement. Donc pour le devenir, ben, il faut être un membre exemplaire, donc il faut consacrer un maximum de temps à Dieu et à l'organisation. Donc pour ce faire, moi j'étais devenu aussi pionnier permanent, donc c'est un terme qui désigne quelqu'un qui va consacrer minimum 70 heures par mois à la prédication, en plus de son travail. Hein. Donc je travaillais à temps plein, je prêchais, donc vous imaginez bien que les loisirs, il n'y en a plus beaucoup quoi, derrière. Il faut que sa famille soit exemplaire aussi, donc à ce moment-là j'étais marié, ma femme, donc elle aussi, passait beaucoup de temps à la prédication. Il fallait passer beaucoup de temps aussi à aider les membres âgés, faibles, en difficulté, etc. Donc vraiment, s'investir au maximum. On a même, avec mon épouse à l'époque, on avait appris la langue roumaine pour aller prêcher dans les camps de Rome, pour faire des cours d'alphabétisation, mais aussi bah, les encourager à devenir témoins de Jéhovah, forcément. Donc tout ça a fait que bah, on était un peu un couple modèle et qu'on a été donc sollicité pour bah, moi, pour devenir ancien, du coup. Voilà.
Pour ce qui est des actes sexuels immoraux, de l'impureté, des désirs sexuels non maîtrisés, c'est à cause de ces choses-là que vient la colère de Dieu. Colossiens, chapitre 3, versets 5 et 6.
La raison pour laquelle, notamment, j'ai quitté les témoins de Jéhovah, c'est que je suis homosexuel, que forcément, les témoins de Jéhovah considèrent ça comme un crime hein, passible de mort. En étant ancien, bah, j'ai dû juger des témoins de Jéhovah qui avaient eu un comportement homosexuel. Donc forcément, ça me posait un problème de conscience. Moi, je sais que je suis attiré par les garçons depuis la maternelle. Alors c'est, bien sûr, c'était pas sexualisé, mais j'avais un camarade de classe en maternelle avec qui voilà, mes rêves d'adulte, enfin mes rêves, je me voyais adulte, vivre avec ce garçon, faire le tour du monde avec lui, etc. Et puis bien sûr, après, dès qu'il y a eu la puberté, j'ai tout de suite compris ce qui se passait. Alors la masturbation est condamnée, bien sûr. Hein, voilà. Et donc bah, moi, à la puberté, commençant à me masturber, en plus en pensant à des garçons, alors que j'avais aucune culture homosexuelle, hein, évidemment... on regarde aucun film, tout est filtré, hein, et voilà, je n'en connaissais pas d'homosexuels autour de moi. Et pourtant, bah, dans mes rêves, dans mes fantasmes, il y avait déjà des mises en situation homosexuelles. Donc c'était perturbant pour moi, mais moi je me voyais comme un dégénéré à ce moment-là, hein, parce que voilà, de ce que j'avais lu dans les publications des témoins de Jéhovah, j'étais vraiment un pervers. Et donc, dès 12 ans, bah, je passais des nuits en prière à demander pardon à Dieu, à lui demander de m'aider à ne plus ressentir ça, à ne pas me masturber, etc. Voilà, c'était extrêmement traumatisant. Et en fait, c'est ça qui a dicté après tout mon parcours de vie spirituelle chez les témoins de Jéhovah, c'est que j'ai toujours essayé d'en faire plus pour Dieu. Parce que je pensais toujours que bah, si finalement je ressentais ça, si j'avais toujours ces pensées pour d'autres garçons, bah, c'est que j'en faisais pas assez pour Dieu. C'est que je le servais pas assez pour qu'il vienne m'aider. Et jusqu'au jour où finalement bah, je voyais pas ce que je pouvais faire de plus, parce que j'étais devenu ancien, j'étais pionnier permanent, donc je passais un maximum de temps en prédication. Donc voilà, je faisais tout ce que je pouvais, et pourtant... Bah, je me sentais toujours plus mal, je me sentais pas bien dans ma peau. Dans ma relation avec ma femme, bah, la sexualité était quasi inexistante. Et en plus, quand on en avait, je me sentais mal, j'avais l'impression de faire quelque chose qui était contre nature.
Je suis tombée sur une recherche internet au tout début, quand on avait un ordinateur.
C'était vraiment les tout premiers pas d'internet.
Où je me connecte à internet, je sais plus ce que je cherchais. Je tombe sur l'historique. Et dans l'historique, il y avait marqué voilà, une recherche de style, de vêtements, plutôt féminin, homosexuel, enfin voilà quoi. C'est bizarre ce truc. Donc voilà, ni une ni deux. Là par contre, je t'ai appelé immédiatement.
Elle est sanguine, donc
je suis sanguine.
J'étais au travail.
Ah ouais.
Elle m'appelle sur mon lieu de travail, elle me dit est-ce que t'es homosexuel ? Moi non, j'étais tellement
choquée,
surpris, je m'attendais pas du tout. Je dis bah non, non. inconsciemment, là, en quelques millièmes de seconde, j'ai dû avoir des grosses suées froides et, puis avoir un peu peur.
Mais c'est vrai que je ne suis pas l'équipe par quatre chemins.
Et puis, du coup, j'ai baragouiné un truc. Je lui ai raconté que oui, je trouvais qu'ils étaient super bien fringués. Donc voilà, je cherchais un peu à imiter leur style, etc. Mais non, pas du tout. J'étais pas du tout gay, etc. Donc, voilà.
Et moi, tout ce que Guillaume dit, je le crois de toute façon. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, en fait, j'étais rassurée tout de suite. Je ne me suis même plus posé la question ensuite. Je me suis dit, OK, ça marche.
Donc, tout ça fait que, ben, à un moment donné, à 33 ans, ben, j'ai pété un plomb. J'ai été paralysé dans mon lit. J'avais plus à me lever. Et donc, ben, ma femme a dû appeler les urgences psychiatriques. Et du coup, c'est là où j'ai dit à ma femme ce qui se passait, quoi. Et ça a été un peu voilà, un tremblement de terre dans sa vie aussi, à elle, forcément.
Que les femmes se soumettent à leur mari, comme au Seigneur, parce que le mari est chef de sa femme, tout comme le Christ est chef de l'Assemblée. Éphésiens, chapitre 5, versets 22 et 23.
Je sais plus si on s'est fiancés en 96. Non, 96, on a passé le bac. 97, je pense. Ouais, on s'est fiancés en 97 et mariés en 99.
Donc, 19 et 21, quoi.
Donc, le sol s'est vraiment dérobé sous mes pieds, effectivement, de me dire, waouh, j'ai pas su. Pendant toutes ces années-là, j'ai pas su, j'ai pas vu. Voilà, je m'en suis un peu voulu. Je n'en ai pas voulu à lui, mais je m'en suis voulu à moi.
Au moment où je lui dis pas, je veux qu'on se quitte, je veux faire ma vie, etc. C'était pas du tout le dialogue. C'était vraiment, je veux qu'on m'aide, quoi. Je veux guérir, je veux rester avec toi, je veux rester témoin de Jéhovah. Voilà, c'était ça mon discours. Donc, elle a super bien réagi. C'est sûr que c'était difficile, mais elle a tout de suite voulu m'entourer, m'accompagner. Tu m'as accompagné chez tous les rebouteux, soigneurs et compagnie qu'on a trouvé pour essayer de trouver des solutions, voilà.
Écoute les conseils et tiens compte de la discipline afin de devenir sage dans l'avenir. Il y a de nombreux projets dans le cœur de l'homme, mais c'est la volonté de Jéhovah qui l'emportera. Proverbe, chapitre 19, versets 20 et 21.
Il s'est quand même passé deux ans entre ce moment-là, entre le moment où donc j'ai pété un câble et j'ai fait donc cette dépression et j'ai quitté les témoins de Jéhovah. Il s'est passé deux ans où j'ai tout fait pour... je suis allé voir aussi tous les rebouteux possibles et imaginables, kinésiologues, micro-kinés, enfin voilà, tout ce que j'ai pu trouver pour essayer de trouver des solutions pour rester, pour guérir de l'homosexualité. Parce que les témoins de Jéhovah pensent qu'on peut en guérir. Il y a un article qui sort qui pose la question, est-ce que visualiser, regarder de la pornographie est passible d'excommunication? Voilà, c'était la question posée. Et dans cet article, en fait, le collège central, hein, donc c'est les dirigeants des témoins de Jéhovah, c'est une poignée d'une dizaine d'hommes qui se trouvent aux États-Unis, expliquer que d'après leur nouvelle compréhension, l'inspiration que Dieu leur avait donnée, la pornographie hétérosexuelle, c'était pas bien, mais c'était pas un péché. Par contre, la pornographie homosexuelle, c'était comparable à la pédophilie, et que là, c'était passible d'excommunication. Et là, en lisant ça, moi j'en avais regardé, parce que ça me permettait de tenir, en quelque sorte, hein, c'était mon seul écart, on va dire, dans ma vie morale. En lisant ça, je me suis dit, mince, en fait, si Dieu m'a pas aidé jusqu'à présent, s'il m'a pas guéri, c'est peut-être parce que j'ai regardé de la pornographie homosexuelle. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller me confesser, je vais aller dire ça aux autres anciens. Et là, ça a été catastrophique, parce que au lieu de trouver de l'aide, là, il y a eu un comité de discipline religieuse qui a été formé. Et en plus... Donc il faut expliquer qu'un comité de discipline religieuse, normalement c'est trois anciens qui font l'office de tribunal et qui écoutent le pécheur. Mais quand c'est un ancien qui est pécheur, donc en l'occurrence moi j'étais ancien, c'est l'ensemble des autres anciens qui sont les juges. Et là pour le coup, il y en avait 10 autres hein, qui étaient tous mes meilleurs amis, des personnes avec qui j'ai grandi, on a évolué ensemble, etc. Voilà, que je connaissais depuis toujours. Donc là, moi toujours très confiant hein, dans l'organisation, dans Jéhovah, etc.
J'arrive, et puis bah, dans la salle, bah, y a voilà, les 10 personnes en arc de cerf, comme ça, puis une chaise éloignée en face d'eux, où je suis invité à m'asseoir. Et puis bah, là, les questions commencent à être posées. Donc, qu'est-ce que tu regardais comme type de pornographie? Tu peux décrire quelle scène c'était? Est-ce que tu te masturbais devant? Comment? Est-ce que tu as eu des pratiques? Est-ce que tu as essayé de te sodomiser avec des objets? Est-ce que dans tes relations sexuelles avec ta femme, vous avez des pratiques qui sont... Alors, parce que pour les témoins de Jéhovah, tout est régenté, y compris la sexualité dans le couple. Seule, on va dire, la pénétration vaginale est autorisée. La fellation, tout ça, c'est interdit parce que c'est considéré comme des pratiques déviantes. Donc voilà, on va vraiment me poser des questions extrêmement intimes, que j'ai considéré moi comme un viol. Hein. Je me suis senti vraiment déshabillé, humilié, mis à nu. Et grosso modo, bah, on me disait que bah, j'étais un pervers, que en fait, tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, bah, ça n'avait aucune valeur parce que bah, j'étais quelqu'un de mauvais. Et voilà, que est-ce que je me repentais de ce que j'avais fait, voilà. Et sinon, bah, j'étais excommunié.
Quand il revient, je le retrouve dans un état déplorable, lamentable. Je comprends immédiatement, il n'a pas besoin de parler, je comprends immédiatement qu'il a subi un viol. Il n'y a pas d'autre expression. Il n'y a vraiment pas d'autre expression. Et là, je deviens rageuse. Mais rageuse. Rageuse de chez rageuse. Je suis en colère. Très, 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 très en colère contre les anciens. Il est suivi par des psychologues, par des psychiatres. Il est sous antidépresseurs. Il va pas bien. Il n'a qu'un seul rêve, c'est de se pendre. Il ne s'en cache pas. Il me le dit. Je crois que tous les jours, il me le dit.
Je crois pas que je le dis, mais tu le...
Non,
tu
mais je
le
ressens.
Tu le vois. Ouais.
Je le vois. Je le vois, je le vois. Puis il y a quand même des jours... Il y a une fois où il m'a dit, la seule chose qui me retient quand je roule en voiture pour pas me prendre la rambarde, c'est parce que t'es à côté de moi. Voilà.
Moi, Jéhovah, je suis ton Dieu, celui qui t'enseigne pour ton bien, celui qui te guide sur le chemin où tu dois marcher. Isaïe, chapitre 48, verset 17.
Et donc c'est ce qui a provoqué finalement mon départ. Je me suis dit là je vois pas l'amour de Dieu dans cette façon de faire. Et mais donc vraiment donc du coup j'ai pas été excommunié. C'est moi qui ai fait une lettre de retrait en disant je ne veux plus être témoin de Jéhovah. Mais à ce moment-là je partais toujours en étant convaincu que c'était quand même eux le peuple de Dieu et que je partais un peu pour sauver ma vie, parce que c'était soit ça, soit me pendre, quoi. Mais je partais pas par gaieté de cœur. Quand on est témoin de Jéhovah, chaque aspect de notre vie est cadencé et rythmé. On sait pourquoi on le fait, on a un but dans la vie, on a tous les aspects de notre vie est réglementé. Comment je m'habille, comment je me coiffe, comment je me rase, voilà, qu'est-ce que je regarde comme film, qu'est-ce que j'écoute comme musique, qui je fréquente, tout ça est réglementé. Et du jour au lendemain, bah, on se retrouve, on ne sait pas qui on est finalement. Et donc il faut tout reconstruire. Et là, heureusement que j'avais quand même un psychiatre, je pense que vraiment, je conseille à toute personne qui quitte un mouvement sectaire d'aller voir un psy, je pense que c'est vraiment indispensable. Parce qu'il y a aussi tout un conditionnement, on m'a toujours dit que le monde extérieur est diabolique, etc. Je me suis senti perdu, j'avais pas réussi vraiment à reconstruire de milieu amical autour de moi. J'arrivais pas à reprendre le pas sur ma vie. Et donc, bah, j'ai fait les démarches pour redevenir témoin de Jéhovah. Alors, c'est très compliqué parce qu'il faut vraiment être. Faut pas avoir beaucoup d'amour propre. On revient, donc il faut s'asseoir au fond de la salle, personne vous dit bonjour. Et en fait. Ça a duré encore 3 mois après la réintégration. Et là, du coup, avec ma femme, on est partis tous les deux. On s'est dit, on n'a plus du tout notre place ici. Voilà. Et là, pour le coup, je partais vraiment volontairement. C'était plus par désespoir de cause. J'étais convaincu qu'il fallait que je parte.
Je me rappellerai toujours, Guillaume était sur le canapé, j'étais en train de faire la vaisselle, je pleurais. J'arrête de faire la vaisselle, puis je le regarde. Et je dis, je crois que c'est bon. J'ai dit, on arrête. Il faut que tu partes. Il faut que tu partes, il faut que tu vives ta vie. T'es pas heureux. Et là, il me regarde. Petit moment de silence. Il me regarde et puis il me serre très 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 fort dans ses bras et il pleure aussi. Il me dit j'attendais juste que tu me le dises.
J'avais un coiffeur qui était gay, hein, manifestement, mais c'était juste un coiffeur, je n'ai aucune relation avec lui. Mais du coup, un jour, voilà, il est en train de me couper les cheveux, je commence à pleurer dans le siège, et il me dit « mais qu'est-ce qui se passe ?» Et donc je lui explique, je lui dis « bah voilà, je viens de faire mon coming out, je me retrouve tout seul, je connais personne, etc. » Et il était super gentil, il m'a dit « écoute, bah, viens à la maison, je te présente à mon mari, on va te présenter des gens, etc. » Et en fait... De fil en aiguille, lui plus bah, des anciens connaissances de travail sont devenus vraiment ma nouvelle famille finalement. Je suis créé une nouvelle famille. J'ai trouvé même des parents d'adoption aujourd'hui voilà, qui ont le même âge que mes parents mais qui vraiment m'ont pris sous leur aile. Sabrina, c'est ce que je te disais, c'est presque ma sœur jumelle. Hein. Voilà, elle fait partie de ma famille de cœur quoi, que je me suis recréé après. Mmh. Avec, comme je disais, des parents aussi d'adoption. Voilà, y a vraiment tout un entourage familial que j'ai recréé et Sabrina a pris naturellement cette place forte, quoi. Ça aurait pas pu être quelqu'un d'autre, quoi, qui soit mon témoin de mariage.
Ce que je peux te dire, c'est que ça fait bizarre quand le maire il dit Monsieur Guillaume Machin divorcé de Madame Intel. Là, je sursaute, je me dis mais pourquoi il parle de moi? Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Et témoin, de nouveau, rappelé à signer Madame Intel. Ah oui, ça je savais.
Même dans l'assistance, ça fait un peu bizarre.
Ça fait un peu bizarre.
Ouais, je crois que c'était... En fait, on a une relation qui est tellement fusionnelle que c'était naturel. En fait, pour te dire, on est même allé plus loin que ça. Parce que pendant un temps, avec mon mari, on a envisagé d'avoir un enfant. Et comme tu t'en doutes, pour un homosexuel, c'est un peu compliqué. Et bah on avait même imaginé que Sabrina soit la mère, quoi. Voilà. Sauf que bon, on était déjà âgés. Voilà,
malheureusement, le processus ne fonctionnait plus déjà chez moi. Sinon, voilà, c'était
mais,
oui.
Mais voilà.
Si j'avais pu, effectivement, j'aurais porté leur enfant. J'aurais été tata, j'aurais été ravie. Voilà, donc tout est bien qui finit bien, quoi.
C'était Jéhovah, le péché de l'identité, avec Guillaume Neuburger et Sabrina Welly. Un podcast de Joris Chamberger. Au mixage, Jean-Christophe Galen, réalisé au Centre universitaire d'enseignement du journalisme de Strasbourg.